Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous ouvrions notre Bible dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire un texte que vous connaissez, et peut-être même que vous connaissez bien. Mais cette semaine, en préparant le culte, j'ai eu à cœur, de vous parler de vous reparler de ce passage que nous avons donc dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 13. Alors, on l'associe avec ces cantiques que nous avons chantés, hein, particulièrement quand il est question de Dieu nous conduit, il nous porte sur son cœur, ça c'était le premier que nous avons chanté, que je vous ai fait chanter, et puis le second, hein, « Ô Jésus, je cherche en toi ta présence ». Alors voilà, donc nous allons penser à tout cela et venir sur ce passage, Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ce qui fait à peu près 10-11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas de ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Voilà pour la situation de notre méditation ce matin. Il est unique ce texte, Il était rapporté par Luc, on ne le trouve nulle part ailleurs. Et une chose qui est extraordinaire, c'est que les anges ont présidé à la naissance de Jésus, et les anges président à la résurrection de Jésus. C'est toute l'implication qu'il peut y avoir, et la confirmation que nous pouvons avoir, que le ciel est présent sur la terre, dans toute l'histoire de Jésus, du début jusqu'à la fin, et je dirais dans l'histoire de l'humanité, puisque nous savons que si nous remontons dans les temps les qui ont été perdus dans la mémoire des hommes à la création, il est parlé de l'ange de l'Éternel, des anges en tous les cas. Et puis à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, c'est aussi la présence des anges. Alors je crois que tout ça, ça doit être une sensibilisation pour nous montrer eh bien ce grand événement qui est celui non seulement de la naissance de Jésus, puisque nous sommes au sortir de Noël, mais il y a quelque chose de plus grand encore, c'est véritablement eh bien la résurrection de Christ. Alors on en reparlera à Pâques, hein, si vous permettez. Mais toujours est-il qu'il y a là quand même une leçon extraordinaire. Alors dans tout cela, il y a Dieu, il y a les anges, il y a des choses extraordinaires, il y a le surnaturel, il y a les choses formidables. Et l'homme dans cette affaire, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait dans cette affaire? Eh bien je voudrais vous dire que l'homme souffre. Eh oui, c'est vrai qu'au milieu de tout cela, il souffre, il a des joies. Il est quelquefois dans des effrois, il est quelquefois dans des tressaillements, il connaît toutes ces variations en quelque sorte. Et nous sommes de ces hommes-là. À travers tous les temps, ça a été la même chose. Et si je peux me permettre dès l'abord, avant de commencer ce message, d'intituler ce que nous allons entendre, ça serait peut-être cette question, et c'est peut-être une des raisons des souffrances des hommes, pourquoi Dieu se cache-t-il? Ils n'ont pu le reconnaître. Et pourtant, ils le connaissaient bien. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Vous n'êtes jamais posé la question? Certainement, et on se pose particulièrement la question quand on souffre, quand on traverse des moments difficiles et qu'on aurait tellement besoin de sa présence. Oui, nous avons raison, hein. Je cherche au Jésus ta présence. Seigneur, j'y aspire. Je te le demande parce que sans toi, je suis perdu. Et c'est vrai, c'est une réalité. Alors, nous allons passer brièvement, eh bien, ces quelques versets que nous allons lire et leur donner une explication. Voici ce même jour, deux disciples, qui faisaient partie de l'équipe qui ont suivi Jésus, allaient à un village nommé Emmaüs, à proximité de la ville de Jérusalem. Je vous ai dit, hein, éloigné de quelques 10, 12 kilomètres, peu importe. Et ces hommes repartaient de la capitale de Jérusalem, mais avec un immense fardeau. Oh, ils étaient montés peut-être d'une autre manière. Peut-être pour certains de ses disciples, et probablement les deux, ils étaient montés un jour parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait un prophète, et que ce prophète, c'était peut-être le Messie. Peut-être plus encore, c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu qui venait visiter les hommes. Alors, ils étaient montés avec une célérité, comme on peut dire, avec une joie immense, et ils ont découvert Jésus, ils n'ont pas douté, ils se sont dit, mais c'est véritablement la consolation d'Israël, celui que nous attendons. Depuis des siècles et des siècles, nos pères sont morts, ils ont attendu vainement, mais nos yeux, comme l'histoire de Siméon, eh bien, ont vu le salut de Dieu. Alors, ils étaient montés avec ce grand enthousiasme, et ils ont eu la confirmation de ce que leur cœur était occupé, préoccupé. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont entendu des choses ineffables, ils ont découvert l'amour de Dieu qui frappait la terre, mais pour lui faire du bien, à travers des signes, des miracles, des prodiges, les morts ressuscités. Même la nature était bouleversée, l'eau changeait en vin, la multiplication des pains, et que dire encore? Ouais, ils étaient venus et ils n'étaient pas déçus. Ouais, ils n'étaient pas déçus. Et Dieu ne se cachait plus. Et on savait pertinemment, pour celui qui avait un cœur ouvert, que Dieu était au milieu de son peuple. Et il bénissait son peuple. Alors, dans cette histoire qui nous est racontée, ils repartent. Mais ils repartent dans un état terrible. Parce que quelquefois, on peut voir de grandes choses, et puis, si ça ne se passe pas comme nous l'avons pensé, comme nous l'avons imaginé, alors on peut repartir avec une grande déception. On peut repartir avec les larmes aux yeux. On peut repartir en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi tout cela? Pourquoi avoir vécu tout cela pour que, finalement, eh bien, ça finisse dramatiquement, et c'était fini. Enfin, façon de parler, avec Jésus d'une manière tellement horrible, tellement ignominieuse. Alors, ils allaient dans un village, ils retournaient dans leur maison en quelque sorte, comme d'autres le feront, et ils s'entretenaient, nous dit la parole, de tout ce qui s'était passé. Ouais, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. À vrai dire, qu'est-ce qui s'était passé? C'est ce que je viens de vous raconter. Ils avaient été bouleversés par cette rencontre. Oh, Jésus n'était pas à l'image de leur prêtre, leur scribe, de leur sacrificateur, de toute cette grande machinerie, on peut dire, qui porte le nom de religion et qui finalement, eh bien, a laissé les hommes dans un désert, dans une aridité, dans une faim et une soif, qu'on a de la peine à trouver les mots pour le décrire, où les gens étaient tombés dans l'indifférence, où étaient tombés dans, véritablement, eh bien, la désabusée, nous pouvons dire. Alors, ils parlaient, ces hommes. Vous savez, quand on passe des moments difficiles, vaut mieux parler. Faut mieux en parler, on peut pas en parler à n'importe qui, mais faut en parler quand même. Alors, c'était des amis, dont l'un s'appelle Clopas. Alors, il parlait à son ami, et il y a des choses qu'il faut dire, mais quelquefois, il y a des choses qui font du bien quand on en parle à d'autres. Mais là, ils étaient tous les deux dans le même état d'esprit, dans la même dépression, dans le même gouffre, et quand on parle, un dépressif qui parle à un dépressif, ou des gens qui sont découragés ou démoralisés qui parlent à un autre démoralisé, qu'est-ce qu'on fait? On se démoralise. Ça n'arrange rien, hein, c'est vrai. Et ils devaient, comme on dit, ils devaient ressasser 3 ans extraordinaires. On a vu des choses, on a vécu des choses, et on l'aimait tellement, Jésus. On l'aimait pour ce qu'il était. On l'aimait pour ce qu'il faisait. On l'aimait pour ce qu'il disait. Et ça, dans une vie d'homme, 3 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire, une aventure. Alors, il se repassait, finalement, eh bien, toute cette histoire. 2 hommes au cœur lourd qui rentrent à la maison, qui rentrent chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils avaient déjà peut-être tout consacré? Tout s'écroule. C'est une faillite. Ils sont dans une terrible déception. La déception, on l'évitera pas à un moment ou à un autre de notre vie. On y passera peut-être une fois, on y passera peut-être plusieurs fois, mais il faut y passer. Il n'y a rien à faire, ça fait partie de la vie. Parce que derrière la déception, il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir des abandons, il peut y avoir des désamours, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir là nos idées qui s'écroulent, nous les avions montées tellement haut dans nos rêves que d'un seul coup, ça s'effondre. Et ça s'appelle la déception. C'est terrible, ils sont dans ce cas-là, tout simplement. Alors, le passé heureux devient un souvenir douloureux. C'est dur ça, hein? Oui, nous avons tous aussi cette expérience. Souvenir de l'enfance, quand on se souvient. Souvenir d'un bonheur qui s'est évaporé. Souvenir de tant de bonnes choses, et puis comme cela a disparu, et que l'idée que nous nous en sommes fait. Alors, lorsque ça, ce n'est plus pour nous, alors à ce moment-là, eh bien, on est véritablement privé de quelque chose. C'est comme s'il nous manquait. C'est comme si nous avions été amputés de quelque chose. Ouais. Il nous manque quelque chose. Peut-être avons-nous rêvé passionnément. Et la passion, c'est pas toujours très bon. Il faut ici y mettre de la raison. Alors, ils étaient dans cette situation complètement découragés, démoralisés, nos pauvres garçons. Et voilà qu'à un moment donné, il est donné cette parole, un petit peu par la suite, pendant qu'il parlait et discutait, voilà, le mot est dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Si on ne lit que ce verset, on se dit, c'est formidable. Là, ils vont voir la confirmation, ils vont pouvoir sauter jusqu'au 3e ciel pour dire, eh bien, nous l'avons vu mort, il est ressuscité, parce qu'ils le savaient qu'il était ressuscité. Enfin, ils savaient que Jésus leur a dit, au 3e jour, je ressusciterai. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours, naturellement. Hein. Alors, Jésus s'approcha et fit route avec eux. 2 hommes, sur le chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs, Voilà, ils sont seuls sur ce chemin, sur ce sentier. Un troisième va les rejoindre. Ils vont être maintenant, eh bien, trois personnes à marcher. Et c'est au moment où, justement, ils sont en pleine discussion, ils parlent tous les deux, que là, eh bien, Jésus s'approche. Mais, il y a cette petite conjonction, mais leurs yeux, nous dit la parole, étaient empêchés de le reconnaître. Ouais. Ça, c'est curieux. On peut voir des choses sans les identifier. Amnésie? Alzheimer? Je ne sais pas. Il ne le voit pas. Il voit un homme comme les autres, c'est Jésus, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose comme un voile sur leurs yeux. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez qu'il y a plusieurs histoires dans la Bible où Dieu a été là dans des situations obligées de fermer les yeux des hommes. Vous connaissez, hein? Bon, souvent pour des histoires de jugement. Mais là, c'est pas une histoire de jugement, c'est une histoire qui va finalement, eh bien, nous introduire dans une révélation. Et ce matin, je voudrais vous le dire, nous avons besoin peut-être, pour tous, nous avons besoin de révélations de Dieu. Pas des révélations qui sont des révélations humaines, avec la pensée humaine, avec là, toutes sortes de choses qui sont un petit peu alambiquées. Non, une révélation dans notre vie, une nouvelle révélation. Nous commençons une nouvelle année, il peut y avoir quelque chose de particulier. Pour mes frères et mes sœurs, peut-être pour ceux qui vous posaient de graves questions, peut-être vous qui tournez en rond, qui vous sentez qu'il n'y a plus d'huile dans votre lampe, vous savez comme ces fameuses vierges, et vous dites, vous êtes en train de vous ressaisir en disant, mais j'ai besoin de quelque chose d'autre, et je veux vivre quelque chose d'autre aujourd'hui. Vous avez les yeux ouverts, vous avez Jésus à côté de vous, et vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas. Vous n'arrivez plus à interpréter finalement ce que peut-être hier vous avez connu et qui là s'est un petit peu évaporé, a disparu. Hein. Alors, Jésus s'approcha, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Si vous me permettez, je parlerai d'un inconnu méconnu. Ouais. On méconnaît Jésus. On ne sait plus qui il est, tout simplement. Et pourtant, je ne veux pas faire une mauvaise phrase, mais un inconnu méconnu, mais pourtant si connu. Parce qu'ils avaient vécu avec lui. Vous vous rendez compte, quand même, en 3 ans, ils avaient mangé avec Jésus. Ils avaient dormi en compagnie de Jésus. Ils avaient ri, ils s'étaient réjouis. Ils avaient vu des choses extraordinaires pendant 3 ans. On n'oublie pas quand même quelqu'un, non? Qu'on ait vu quelqu'un pendant 2 heures ou 3 heures, bon, d'abord, on peut... Mais quand on a vécu avec quelqu'un, ça ne s'oublie jamais. Et là, eh bien, ils ne pouvaient plus. Et tout cela parce que ils étaient comme dans un flou moral et spirituel. Leurs yeux fonctionnaient bien, mais à l'intérieur, ça ne correspondait pas. Et tout ça, eh bien, parce que ils étaient empêchés. Mais qui empêche? Là, visiblement, c'est Dieu qui empêche. Maintenant, il y a des empêchements qui ne viennent pas de Dieu, qui peuvent venir de nous. Parce que nous nous sommes mis peut-être dans une situation où, eh bien... nous nous sommes enfermés dans l'obscurité. Ça peut être vrai pour différentes raisons que nous n'avons pas jugées. Mais il y en a un aussi qui exploite la situation de l'enfermement et de l'empêchement, c'est l'adversaire. Ça, c'est sûr. Mais autant nous fermons les yeux sur des réalités du monde invisible et les réalités spirituelles, et si nous sommes droits de cœur comme ces deux-là, autant lorsque nos yeux vont s'ouvrir, vous allez le voir tout à l'heure, c'est extraordinaire et c'est magnifique. Peut-être avez-vous besoin de faire cette expérience. Quelqu'un me dira ce matin, je comprends plus rien à la foi. Je comprends plus rien à l'évangile. Je comprends plus rien à Dieu. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de moi? Écoutez, si vous avez déjà fait cette question, eh bien Dieu va vous répondre, vous allez voir. Moi j'en suis convaincu. Parce que si vous aimez le Seigneur, il ne manquera pas de vous répondre. Mais il a quelque chose de formidable et de merveilleux. Et nous sommes passés par là à un moment ou à un autre, où nos yeux étant empêchés, nos cœurs empêchés de le voir, et quand c'est arrivé, c'était une projection dans la pleine lumière. Parce que nous avons besoin d'un renouvellement dans notre vie spirituelle. Ouais, ouais. Si nous sommes convertis depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous avons besoin d'un renouveau dans notre vie. Si vous êtes convertis depuis 2 ou 3 ans, vous avez besoin déjà d'un renouveau dans votre vie. On ne vit pas, c'est pas statique la vie spirituelle, la vie chrétienne. C'est une vie en permanence de développement et de renouvellement, naturellement. Voir dans le noir, c'est pas très agréable. Hein. Moi, ça m'arrive quelquefois de me lever la nuit. il y a des portes chez moi. Alors, c'est vrai, on tâtonne et tout ça parce qu'on veut pas déranger ceux qui sont à côté, mais voir dans le noir. Est-ce que nous pouvons voir dans le noir? Nous ne sommes pas des créatures appropriées à voir dans le noir, hein, ça c'est sûr. Mais quelquefois, spirituellement, moralement, nous marchons dans le noir. Je veux pas dire que nous marchons dans les ténèbres, hein, c'est autre chose. Nous marchons dans l'obscurité, et ça, c'est parce que nous sommes empêchés de peut-être d'autres choses. Voilà que par la suite, Jésus s'adresse à ces deux malheureux dépressifs, et il va leur dire « Mais de quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ah, sujet de préoccupation, qui absorbait complètement leurs pensées, leurs sentiments et leur cœur, et préoccupé par une grande tristesse. C'est ce que nous avons souligné tout à l'heure. Alors, de quoi vous entretenez-vous? Et ils étaient dans la tristesse. L'un d'eux va prendre la parole. Il est nommé Cléopas et il répond à Jésus. Et s'adressant à Jésus sans le voir, il ne l'a pas reconnu, il lui dit « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» répond Jésus. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Voilà la chose. Seul à ne pas savoir alors que tout le monde le sait. Donc cet homme qui marche avec les disciples d'Emmaüs, ça doit être quelqu'un qui vient de très loin. Il ne connaît pas la région. Ça doit être un étranger, puisque la question est posée sous cette forme, naturellement. Est-ce que tu serais le seul à ne pas savoir, finalement, ce qui s'est passé? La question est là. Hein. Alors, il faut donner cette réponse à cet étranger qui n'a pas l'air de savoir. En tous les cas, s'il y en a un qui savait, c'était bien Jésus. Hein. Voilà. Quoi? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Et imaginez-vous, et la belle confession qui est donnée. Hein. Belle confession. Un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Ça identifie tout à fait le personnage. Et comment les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire toutes les autorités religieuses en lien et nous pourrions dire en complicité avec les autorités civiles, qu'elles soient romaines ou juives, comment nos principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort d'abord et ils l'ont crucifié. Imaginez-vous que ces hommes, quand ils ont dit ça, ils devaient avoir de grands sanglots dans leur gorge. Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Tu ne sais pas? Ouais. Si bien connaître l'histoire et ne pas comprendre. Je crois que ça pourrait s'approprier à notre monde d'aujourd'hui qui se dit chrétien, mais qui quelque part, est en dehors parce que son cœur est empêché. Le voile est encore sur leurs yeux. Nous pourrions dire que on peut connaître les choses sans véritablement être rentré dans une dimension spirituelle de révélation. Ouais. Ça arrive. Et c'est certainement encore, malheureusement. Et c'est pourquoi nous avons à prier, peut-être diriger nos prières, nous les chrétiens, pour dire, Seigneur, décile les yeux du monde qui nous environne. Ouvre leurs yeux, qu'ils comprennent, qu'ils voient, qu'ils sachent. Parce que utiliser le nom de Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur, Seigneur, Jésus leur répondra dans le sermon sur la montagne, il leur dira « Mais ça sert à quoi de me dire Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ma volonté ?» Et la meilleure façon de trouver et de pouvoir comprendre la volonté de Dieu, c'est quand même de revenir et de plonger les regards. Les regards et notre cœur dans ce que nous dit la Bible et l'Évangile. Et heureux ceux qui ont l'amour de la vérité, parce qu'ils seront éclairés. Ça c'est Paul qui nous le dit dans une de ses épîtres. Alors, bien connaître l'histoire et ne pas comprendre. Dieu serait-il injuste? Peut-être une question que vous vous êtes posée. Mais est-ce que Dieu serait injuste quand je vois ce qui se passe? Comment laisser un homme qui est innocent condamné et crucifié? Parce que c'est horrible l'histoire de la passion de Jésus. Hein, la manière dont les choses sont faites. C'est en quelque sorte une association de malfaiteurs à haut niveau. Hein. C'est terrible, hein, tous ces gens qui se détestaient comme Pilate et Hérode, il nous est dit que le jour où ils se sont mis d'accord pour crucifier Jésus, ils sont devenus les meilleurs amis du monde après. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Dieu serait-il injuste? Pourquoi Dieu ne m'explique-t-il pas les choses? Je suis en train de buter sur une situation. Je suis en train de me préoccuper parce que dans ma vie, il y a des choses qui sont vraiment fort désagréables. Je me trouve au chômage, je me trouve malade, j'ai ceci, cela. Mais pourquoi Dieu? Je t'ai prié, pourquoi tu ne m'expliques pas? La réponse, c'est Pierre qui va l'avoir à un moment donné. Écoutez, si ça peut concerner quelqu'un. Jésus dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Patience, persévère dans la foi. Le Seigneur va te le montrer. Sois patient, continue à croire, même si les choses sont difficiles pour toi. Alors, pourquoi Dieu ne m'explique-t-il pas ce qui serait nécessaire et qui me ferait tant de bien de savoir où Dieu me mène ou me conduit? Un Dieu silencieux, figurez-vous. Ah, on l'a souvent reproché dans le monde. Dieu ne dit rien. Si j'étais Dieu, j'y suis pas, hein. Mais si j'étais Dieu, je remettrais de l'ordre dans ce monde. D'accord? Quand on voit ces enfants qui sont écrasés sous les chars, sous les bombes, quand on voit cette misère où il y a une grande proportion de l'humanité, vous savez qu'on va arriver, on est arrivé à 7 milliards d'habitants. C'est pas mal, hein, quand même, hein. Et que vous en avez pratiquement les trois quarts qui sont juste à la limite de la survie. Quand vous voyez tout ce qui peut se passer dans notre monde et notre monde occidental où il y a une débauche de tout d'ailleurs, hein, de moyens, sur le plan moral, etc. Ah, si j'étais Dieu, je remettrais de l'ordre. Je montrerais que je suis Dieu, mais c'est ce que Jésus a entendu à la croix. Si tu es le fils de Dieu, descends de ta croix et puis tu remets les choses en place. Non, c'est pas la manière dont Dieu se sert. Dieu, souvent, est silencieux. Mais il n'est pas indifférent. Dieu est silencieux, même s'il ne dit rien, il n'est pas absent. Et si Dieu est silencieux, l'autre partie, l'autre correspondant, c'est que nous devons attendre dans le silence. Oui. Heureusement que nous avons des paroles comme dans les Lamentations de Jérémie qui nous disent « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Combien de fois dans ma propre vie, ce verset m'est revenu lorsque, dans certaines situations, l'impatience m'a saisi. Seigneur, fais plus vite, je n'en peux plus. Seigneur, accélère le temps. Et puis on s'aperçoit que on l'a aussi d'une autre manière, où Dieu nous répond, mais écoute, continue à croire, fais confiance. Tout est entre mes mains, parce que Dieu fait toutes choses belles, en son temps. Et vous savez, un fruit, je le dis, je le répète, un fruit, quand il est vert, il est âpre, il est pas bon. Un fruit, quand il est trop mûr, il est pourri, il est pas bon. Mais un fruit qui est mûr, c'est très bon. Nous, on a l'habitude maintenant avec nos supermarchés d'avoir des fruits. Ils sont mûrs à point, vous comprenez, hein? Enfin, je suis pas en train de... Là, je vais me mettre dans une situation de difficulté, mais c'est vrai parce que on ne sait plus ce que consommer ce qui est bon autant que convenable. Tout est inversé dans notre monde, hein. Manger des fraises à Noël, par exemple, bon, bah c'est bien, mais elles sont pas de chez nous, hein. Tout est renversé. Le temps de Dieu, le vrai temps de Dieu, savoir l'attendre. Un Dieu qui dit aimer les hommes, pourtant. Oui, il dit qu'il nous aime. Et vous savez, il y a cette parole que nous avons dans le livre de Job, et je le cite tout simplement pour, là, en quelque sorte, nourrir cette pensée que Dieu, nous le savons, aime les hommes. Il nous aime et il nous aime, nous en particulier, ses enfants, ses rachetés. Et je trouve ce passage dans Job au chapitre 7 et il est dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Vous savez que Dieu fait beaucoup de cas de nous. Alors vous dites, mais j'en ai pas tellement de sentiments, hein. Il fait beaucoup de cas de nous. Parce que nous ne serions pas là s'il n'avait pas fait de cas de notre perdition et de notre misère. Ça, c'est sûr. Pour que tu daignes prendre garde à lui. Nous sommes des privilégiés les uns et les autres. Ouais. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. C'est ça ce qu'il nous est dit. Plus que l'on peut le penser et le supposer, Dieu a un grand intérêt de nos vies et de notre bonheur. Ouais. Et ça, faut jamais s'en départir. La plus belle preuve, eh bien, elle est répondue tout simplement par le verset Jean 3,16, et qui englobe tout le reste. Ça, c'est clair. parce qu'il y est parlé de l'amour, car Dieu a tant aimé, tellement aimé. On ne devrait jamais se séparer de cette pensée de l'amour de Dieu. Tiens, en fait, de l'amour de Dieu. Comment aimer Dieu? Peut-être c'est cela qui peut nous aider. Un Dieu qui garde le silence dans nos détresses, un Dieu qui semble si lointain, nous crions à lui, nous ne prions pas seulement, mais nous crions à lui, et il n'y a rien du tout. Comme là, ses disciples qui marchent et Jésus ne se dévoile pas. Il les laisse parler, il laisse raconter l'histoire. Eh bien, aimez Dieu quand même. Oui, aimez Dieu quand même. J'ai trouvé ce passage d'un poète américain qui dit ceci. Recevoir l'ordre d'aimer Dieu, selon le commandement évangélique que nous connaissons, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. La suite. Alors quand on est seul dans le désert, il n'y a pas que des déserts de sable, il y a des déserts d'une autre nature. Quand on est seul dans le désert, c'est comme recevoir l'ordre d'aller bien quand on est malade. Quelquefois nous le faisons sans réfléchir, secoue-toi. Quand t'es au lit, t'as de la fièvre, t'es en pleine déprime, allez, secoue-toi, ça va aller mieux. Moi, je pense qu'il y a une sottise et une ineptie à dire des choses pareilles. J'ose le dire. Parce que quand on est malade, on est malade. Ça, c'est vrai. Alors, aimer Dieu, c'est la même chose. Secoue-toi et aime Dieu. Ouais, c'est pas évident. C'est de chanter de joie dans un jour de deuil. À moins que vous n'aimiez pas la personne. Mais vous perdez quelqu'un de cher, quelqu'un qui vous est précieux. Et vous chantez, vous criez votre allégresse, etc. Ben c'est ça. C'est de courir quand on a les jambes brisées, cassées. Tu aimeras ton Dieu. C'est quand même le premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et c'est le plus grand des commandements qui nous est donné dans l'Évangile. Et je dirais que c'est le plus grand des commandements, même dans le désert. Surtout dans le désert. Tu aimeras Dieu dans les déserts de ta vie. Et tu l'aimeras encore plus dans ces moments-là, peut-être que dans d'autres. Et Dieu ne manquera pas de nous délivrer, parce qu'il y a une chose qu'il veut voir, c'est notre amour et notre foi pour lui. Vous croyez pas qu'Abraham n'a pas fait l'expérience là-haut, sur le mont Morija, dans le désert de Morija, sur la montagne de Morija? Ouais. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et c'est le plus grand et le premier des commandements. Et je le rappelle, même dans le désert, surtout dans le désert, Dieu nous dit, vous m'aimerez. Mais l'amour, est-ce que c'est un ordre? Non. C'est un désir qui nous porte vers lui, spontané. C'est pas un ordre. C'est quelque chose qui doit nous animer au plus profond de nous-mêmes. Et là, nous allons le découvrir. Moi, je dis que les disciples d'Emmaüs, ben, ils vont montrer qu'ils aimaient Dieu, hein, quelque part. Hein. Alors, aimer Dieu quand on ne sait plus. Aimer Dieu comme on ne comprend plus. Même à la limite, quand on ne croit plus. Quelquefois, on a le sentiment que l'épreuve est tellement grande qu'on se dit, mais je vais perdre la foi. Je l'ai entendu encore cette semaine. J'ai peur de perdre la foi. Ouais. Deux personnes me l'ont dit, j'ai peur de perdre la foi. Rassurez-vous. Ne mettez pas votre confiance en vous pour la garder, mettez votre confiance en Dieu, c'est lui qui vous gardera. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et voilà qu'il y a ce passage extraordinaire, me semble-t-il, qui revêt un caractère tout à fait particulier. Alors, dans le texte, il nous est simplement dit, verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui ». Voilà ce qu'il fallait dire. Voilà ce qu'ils ont sur le cœur. Parce qu'ils sont dans une grande déception, nos deux disciples. Ils sont malades à mourir. Et ils vont dire ce qu'il faut dire. Nous espérions que ce serait lui. Eh oui, mais ils ne se trompent pas. Même en pensant que ça devait être quelqu'un d'autre. Oh, il y en a d'autres qui se sont mépris sur la venue de Jésus. Vous vous souvenez l'histoire de Jean-Baptiste? Est-ce que c'est lui, le Messie, ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Eh bien, si des hommes comme les disciples d'Emmaüs, si un Jean-Baptiste a pu faire cette méprise, quelquefois ça peut nous arriver de l'avoir. Et ne vous culpabilisez pas et ne vous jugez pas vous-même. Hein. Pourtant, c'était des grands hommes. Hein. Nous espérions que ce serait lui. C'est comme s'il y avait quelque chose comme un mirage qui nous échappe, qui là passe entre nos doigts en disant « mais c'est fini, c'est terminé ». Nous espérions que ce serait lui. Eh bien moi je voudrais le confirmer, mais dans le bon sens, c'est véritablement lui, même si nous ne l'avons pas reconnu, c'est lui qui va faire le reste. C'est lui qui va les dessiller leurs yeux. Nous espérions que ce serait lui. Et voilà qu'après, et j'y arrive, il y a quelque chose de formidable. Après la détresse, après les pleurs, après cette terrible maladie qui est la déception, eh bien voilà une remontée, je peux le dire, une remontée progressive vers la lumière. Tout simplement. Ouais, vers la lumière. Et je lis la suite. Il est vrai que... Eh oui, c'est déjà un commencement de la foi. Il est vrai que... Ils vont le confesser de cette manière. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, donc bien connues, et qui avaient suivi Jésus aussi, nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. C'est au présent. Je ne le vois pas, je ne le comprends plus, je ne sais plus où il est, je suis dans le brouillard, je suis dans les ténèbres, comme nous l'avons chanté, hein. Les ténèbres et la peur d'avoir perdu à jamais. Mais, et lui, il est là, tout simplement. Lui, il est là. Il y a une citation que j'aime particulièrement, que j'ai déjà donnée ici, de l'écrivain Edmond Rostand, qui dit ceci. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, surtout la nuit. On n'a pas besoin de lumière les jours de soleil. C'est surtout la nuit qu'on a besoin de croire à la lumière. Et quand on croit à la lumière, à un moment ou à un autre, elle va se manifester, elle va apparaître cette lumière. Et c'est la suite de notre récit que nous allons faire brièvement. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait. C'est comme un arrêt de mort. Et quand Dieu dit c'est fini, quand l'homme dit c'est fini, Dieu dit non, ça commence. C'est à ce moment que ça commence. Et il est vrai donc que quelques femmes nous ont raconté qu'elles sont allées au tombeau et elles nous ont étonnées et elles ont annoncé que par la voix des anges, elles ont entendu par la voix des anges, eh bien qu'il était vivant. Et quelques-unes de ceux qui y sont allées, montées au sépulcre, elles ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Vous rendez compte un peu toutes ces... Ah, quelqu'un dira, ce sont des coïncidences. C'est le fait du hasard, c'est fortuit tout ça. Pas question. Dieu nous parle avec des petits éléments, souvent avec des bribes, qu'il faut reconstituer comme un puzzle. Et si nous suivons cela, eh bien à ce moment-là, nous allons voir que Dieu, dans ce puzzle, il va le constituer et il sera admirable, il sera magnifique lorsqu'il sera fini. Il y a cette belle histoire du tapissier qui est en train de faire une œuvre d'art avec des fils, il est cool, il est en train de faire une représentation, mais lui ne travaille pas devant le chevalet pour faire la tapisserie, il travaille derrière. Et comment il fait? Il ne voit que des fils qui sont entremêlés, il n'y a aucune forme, rien du tout. Et quand c'est fini, il retourne sur le chevalet la tapisserie, au buisson ou tout ce que voudrait, et là il y a un chef-d'œuvre devant ses yeux. Dieu travaille comme ça avec nous. Ouais, nous sommes en travaux, nous sommes la tapisserie de Dieu en quelque sorte, et nous ne voyons que l'arrière pour l'instant, des fils qui sont dans tous les sens, entremêlés, etc. Vous retournez à la tapisserie, c'est le chef-d'œuvre. Et c'est ce que Dieu veut faire en quelque sorte, de nos vies. Alors elles ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu, mais c'est normal qu'ils ne l'ont pas vu puisqu'il est ressuscité. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, ce qu'ont dit les prophètes. Donnons plus d'importance encore à la parole de Dieu, hein. Laissons-nous instruire par le Saint-Esprit, enseigner par le Saint-Esprit, ce qu'ont dit les prophètes. Et qu'est-ce qu'ont dit les prophètes? Dans les temps anciens, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il entre ensuite dans la gloire? Mais cette rentrée dans la gloire devait passer par une humiliation. Avant la couronne céleste de gloire pour Jésus, il fallait qu'il y ait l'humiliation de la mort, parce qu'il n'y a pas de résurrection possible s'il n'y a pas la mort avant. On ne trouverait pas la signification de ce mot. Le mot résurrection, c'est parce que précédemment, il y a eu la mort. Et Jésus a donné sa vie, il est mort pour pouvoir ressusciter. Et chacun d'entre nous, et ça c'est une formidable leçon d'espérance pour notre vie propre et pour l'Église en général, c'est que nous devons mourir à nous-mêmes avec Christ. Nous sommes ensevelis par les eaux du baptême, on a donné l'explication spirituelle lors du dernier baptême il y a 15 jours ou 3 semaines, et à ce moment-là, c'est parce que nous mourrons avec Jésus que nous allons ressusciter avec lui. C'est notre espérance. Et c'était le premier thème du message des premiers disciples et des apôtres dans le livre des Actes. Ils annonçaient Jésus-Christ ressuscité. Et c'est ce qui fait notre espérance, notre grande espérance. Ne fallait-il pas qu'il souffre ces choses ? Et qu'il entre dans sa gloire. Et tout est cohérent dans la Bible. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On ne pourra jamais grandir si on fait finalement l'impasse, de connaître la Bible, de lire la Bible, d'entendre le message de la Bible. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on va être emporté à tout vent de doctrine si on picore de droite et de gauche. C'est Jésus, c'est sa parole, c'est ce que nous enseigne l'Écriture sainte, et c'est drôlement cohérent. Ça se tient. Alors il leur expliquait les Écritures qui le concernaient. Alors à un moment donné, ils ont discuté, et je ne sais pas combien ils ont discuté, mais ils ont dû marcher quand même pendant quelques demi-heures, peut-être une ou deux heures, je ne sais pas à quelle vitesse ils marchaient. Lorsqu'ils furent près d'un village où ils allaient, ou du village donc on peut supposer que c'était Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin. Et ça, c'est une belle image que nous avons. Ils ne l'ont toujours pas reconnu, les disciples d'Emmaüs. Et à un moment donné, eux, ils allaient dans leur village, ils allaient s'arrêter. Le compagnon qui fait route avec eux, ils ne l'ont pas reconnu encore, bien qu'ils aient discuté, bien qu'il ait entendu beaucoup de choses de leur part. Il parut vouloir aller plus loin. Si vous n'arrêtez pas Jésus dans votre vie à rester auprès de vous, il filera. Il faut lui demander « Reste avec moi, Seigneur ». Reste dans ma vie. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne toute mon existence. Mais demandez-lui, il va le faire. Mais si vous le laissez passer, serait-il si peu intéressant, Jésus, que vous ne fassiez pas attention à lui? Ils ne l'ont toujours pas reconnu. Mais néanmoins, parce que la parole a nourri leur cœur et les a nourris de curiosité, alors ils le pressèrent en disant, mais reste avec nous, car le soir approche et le jour est à son déclin. Mes amis, est-ce que nous pouvons pas dire ça de notre monde d'aujourd'hui? Le jour reste avec nous, le soir approche, et le jour est à son déclin. À l'horloge du monde, à l'horloge de cette humanité, je crois que le jour est à son déclin. La nuit vient, et Jésus nous l'enseigne également, et de lui dire, mais reste avec nous, Seigneur. Reste avec moi tous les jours. Reste avec moi à chaque moment, à chaque instant. Et ça, si c'est une prière pressante, ardente que nous faisons, mais le Seigneur va rester avec nous. Avec chacun d'entre nous, naturellement. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, voilà une autre scène, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ça vous rappelle? Les 4 épisodes qui nous sont donnés dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, où Jésus va instituer le repas de Sainte-Cène, celui-là même que vous avez devant vous, qui est un mémorial, qui n'est pas un sacrement, qui n'est pas un rite ni une tradition, mais qui est un souvenir, un symbole de ce que Jésus a donné sa vie, brisé à travers le pain que nous rompons et à travers son sang qui a coulé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. C'est ça le cœur même, finalement, du culte de l'Évangile, du culte à Jésus-Christ. Et nous annonçons son retour, nous annonçons qu'il revient et nous annonçons qu'il n'est pas loin à la porte parce que le soir, s'appesantit sur notre monde. Les choses sont en préparation. Alors, et ce mot « alors » est formidable dans la suite, « alors leurs yeux s'ouvrirent ». Il y a des frères et des sœurs qui traversent des lourdes épreuves. Je le sais. De ceux qui se posent de graves questions. C'est vrai. De ceux qui ne savent plus du tout où ils en sont rendus. Qui se disent « mais à quoi bon avoir cru ? Pourquoi j'ai fait ceci et cela et je suis complètement désabusé ? Je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis rendu. » Alors leurs yeux s'ouvrirent. Moi je dis que Dieu vous aime plus que vous ne pouvez ne l'imaginer. Il ne va pas vous laisser sombrer. Il ne va pas vous laisser enfermer dans une prison de découragement jusqu'à la fin de vos jours. Heureusement que les disciples ont dit « reste avec nous ». Reste avec nous. Et leurs yeux s'ouvrir. Il a fallu qu'ils attendent jusqu'à ce moment-là, et c'est à travers, finalement, eh bien, la rupture du pain et du vin que leurs yeux s'est ouvert. Et c'est quand on reconnaît que Jésus est mort pour chacun d'entre nous que nos yeux et nos cœurs s'ouvrent. Oui, nos cœurs s'ouvrent. Parce que, on peut dire beaucoup de choses de la Bible, on peut connaître beaucoup d'histoires formidables, mais c'est à partir du moment où on s'associe avec Christ à travers la Sainte Seine, qui là, il se passe des choses. Ce matin, nous allons le faire pour peut-être la 10 000e fois pour certains d'entre nous. Peut-être pas 10 000, parce que, hein, mais pendant des centaines et des centaines. À chaque fois que je m'approche du repas de Sainte-Seine, c'est une vie nouvelle que je prends. C'est un renouvellement de vie. Vous en avez besoin de renouvellement de vie? Vous avez besoin d'un second souffle? Vous avez besoin que vos yeux s'ouvrent? Vous avez besoin d'être conduit encore plus loin avec le Seigneur? Vous avez besoin de chasser peut-être toutes ces miasmes de dépression et ce tempérament qui est le vôtre où vous tombez dans la neurasthénie? Mais le Seigneur vous donne la guérison. C'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'ai tout pleinement à travers, eh bien, cette table, comme dans le village d'Emmaüs, où ces deux amis se sont mis en face de Jésus. Jésus a rompu le pain pour leur dire, mais voilà, c'est l'emblème de ma vie que j'ai donnée pour vous. Et ma vie que j'ai donnée pour vous, mais vous l'avez en vous, par le Saint-Esprit. Alors, ils se dirent les uns l'un et l'autre, j'espère que ça marche. J'espère que vous allez le vivre maintenant. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ce que j'ai fait, c'est de vous expliquer brièvement, peut-être maladroitement, certainement, les Écritures en ce qui concerne les délivrances extraordinaires et merveilleuses et la présence de Jésus dans notre vie à chacun. Alors le reste, je ne pourrai pas aller plus loin, parce que ce que vous avez besoin, j'en ai besoin aussi. Nous ne sommes que des hommes, mais une chose qui est certaine, c'est que je suis complètement convaincu. Je suis vraiment dans la certitude et l'assurance que le Seigneur nous dit la vérité pour vous, pour moi, pour tous. Notre cœur nous brûlait-il pas? Notre cœur a commencé à nous brûler lorsque nous avons chanté quelques cantiques tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ô Jésus, j'ai besoin de ta présence. Ô Jésus, j'ai besoin de ta parole. Ô Jésus, j'ai besoin que même si je ne te vois pas, même si je ne te comprends pas, peu importe, tu es là. Le Seigneur est au milieu de nous, il veut vous bénir. Il veut vous donner sa grâce. Il veut faire de vous des hommes et des femmes qui vont être transformés, bouleversés. Il veut que vous soyez heureux en quelque sorte. Même si quelquefois il faut passer par cette expérience difficile, du grain de blé qui est semé en terre, et avec cette promesse que s'il n'est pas semé en terre, eh bien il meurt. Et par contre, s'il est semé en terre, il va pousser et il va produire des fruits. Tout cela, c'est la vérité, en quelque sorte. Mais certainement pas en quelque sorte. Assurément, c'est la vérité. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Mais le Seigneur nous parle en chemin jour et nuit. Il marche avec nous. Il est là, il est présent. Quelquefois, nous avons la fausse idée de penser qu'il est avec nous, mais il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Mes frères et sœurs qui ne sont pas baptisés, qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, demandez instamment que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit et vous allez voir ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Vous pourrez vous édifier vous-même parce que c'est ainsi qu'il nous est présenté les choses. Mais ça nous fait rentrer dans un développement des fruits de l'Esprit dans notre vie chrétienne et ça nous permet aussi de servir le Seigneur à travers les dons spirituels. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Continuez à prier pour que vous ayez des prédicateurs, mes frères qui sont dans les frères anciens, et qui expliquent la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que l'Église va grandir. C'est sur la parole, c'est pas des démonstrations culturelles ou autre chose, c'est la parole de Dieu. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et je m'imagine comment ils s'en retournèrent. Ils ont dû remonter jusqu'aux genoux leurs robes, ils avaient des robes à l'époque, hein. Et ils sont allés, mais alors, je peux vous dire TGV, hein. En quelque sorte. Hein. Ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. L'Église ne s'est pas délitée, l'Église ne s'est pas débandée, l'Église n'est pas partie de tous les côtés. Ils étaient encore ensemble. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit « Attendez encore quelques jours à Jérusalem et je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Et cet Esprit, il s'appelle le Consolateur. Vous avez besoin de consolation? Vous avez besoin d'être renouvelé, peut-être, dans vos peines, dans vos chagrins dont nous avons parlé, ceux de ces deux amis qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, ou peut-être d'autres peines, d'autres consolations, vous avez besoin. Mais c'est ça ce que Dieu va vous donner. Ils étaient rassemblés, ils attendaient, et ils disaient, quand ils sont venus, ils ont poussé la porte, certainement, je m'imagine, à un moment donné, d'une manière très forte, et ils ont dit une chose, le Seigneur est peut-être ressuscité. Personne ne réagit. Je mets mes lunettes, non, je les enlève. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et nous, dans notre Église, nous croyons que Jésus est vivant, il est au milieu de nous, et nous voulons le bénir et l'adorer, parce que il est là, le Seigneur. Réellement ressuscité, autrement notre foi serait vaine. Et il est apparu à Simon. Pourquoi Simon? Ah, tiens, Simon-Pierre, n'est-ce pas celui qui l'avait renié? Et c'est celui qui l'avait renié, le premier, qui va être le premier à voir l'apparition du Seigneur, comme quoi Dieu pardonne tous nos péchés. C'est formidable la Bible, hein? Ouais, ouais. C'est une passion de Dieu dans notre cœur. La Bible est un livre extraordinaire et merveilleux, c'est le livre qui nous fait vivre. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain, tout simplement. Il y a peut-être ce beau texte pour conclure, dans le psaume 44 et au verset 24, et je finirai sur cela tout simplement, 24, 25, une prière, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Vous voyez, quelquefois nous pouvons avoir cette impression. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Il y a une chose qui est au-dessus de tout, c'est l'amour, la bonté et la grâce de Dieu. Et cela, eh bien, on le saisit tout simplement par la foi. Vous voulez que l'on bénisse le Seigneur maintenant à travers le repas de Sainte-Cène? Vous voulez que nous ayons un moment où nous allons pouvoir, eh bien, éclater de louanges et d'adoration devant notre Dieu? Alors on va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que pour nous, tu es un Dieu merveilleux. Ton nom est admirable. Il n'y a pas d'autre nom sur le ciel, dans le ciel et sur la terre que le nom de Jésus. Nous voulons te remercier. Merci pour ta parole ce matin. Moi, je te prie particulièrement pour mes frères et mes sœurs, ceux qui sont là, qui ont entendu ta parole et qui puissent trouver un formidable encouragement à regarder à Jésus, à s'approcher de Jésus. Même, Seigneur, si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne savons pas tout, même si nous avons oublié beaucoup de choses, parce que nous revenons vers toi, eh bien, je sais, Seigneur, que toi, tu reviens sans crainte vers nous, Seigneur, et sans jugement surtout. Je te demande de bénir mes frères et mes sœurs, de bénir ton Église ce matin, les uns et les autres, et de leur faire du bien, et peut-être de prendre cette décision, eh bien, Seigneur, maintenant, reste avec moi, car le jour décline et que la nuit vient. Alors, Seigneur, moi, je ne veux pas marcher dans l'obscurité, je veux marcher dans la lumière, je veux marcher dans ton amour, et je veux marcher, Seigneur, dans la liberté que nous donne ta parole et le Saint-Esprit, parce que c'est la vérité nous rend libres, la vérité de Dieu nous rendra libres. Nous te bénissons et nous te remercions. Merci pour la présence de ton esprit. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.